BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a donc cette décision justice qui est tombée il y a une heure. Aux États-Unis, Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX, la star déchue des cryptos, SBF comme on l'appelle, vient donc d'être condamné à 25 ans de prison, entre autres pour fraude, blanchiment et conspiration. On va aller aux États-Unis bien sûr dans un instant. On va reparler bien sûr des déclarations de Gabriel Attal hier soir sur l'assurance chômage. Y a-t-il eu juste des déclarations ou vraiment des intentions de la part du Premier ministre? On posera la question à nos experts qui arrivent à 18h30 tout à l'heure. Et puis le patron de Thalès sera l'invité d'Edwige Chevrillon et vous allez voir qu'il leur dit très clairement, il n'est toujours pas intéressé par les activités cybersécurité du géant Atos. Voilà donc pour nos grands thèmes de discussion ce soir. Sinon, on vous parlera de Xiaomi, le numéro 3 mondial du smartphone qui se lance dans la voiture électrique. Et puis, on dira un mot de Le Père de Flamanville. On ne va pas se risquer à se dire que c'est gagné. En tout cas, les nouvelles étaient plutôt bonnes ce matin du côté d'EDF. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc l'actualité nous emmène ce soir du côté des États-Unis où Sam Bankman-Fried, l'ancien patron d'FTX, star déchu des cryptos, vient d'être condamné à 25 ans de prison. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. C'est moins, cela dit, que ce que le procureur avait requis, Antoine.
Oui, 25 ans de prison, c'est une peine moins sévère que prévu. Le procureur avait réclamé le double et sur le papier, SBF risquait jusqu'à 110 ans derrière les barreaux. Alors tout à l'heure, la parole a été donnée une dernière fois à la défense. Sam Bankman-Fried a présenté des excuses. Cette faillite me hante encore tous les jours, dit-il. Ses avocats, eux, avaient demandé au juge de se montrer plus clément. Ils espéraient une peine limitée à 6 ans de prison. Ils présentent SBF comme un jeune entrepreneur un peu geek qui a certes commis des erreurs, mais sans mauvaises intentions. Ça n'est pas Bernie Madoff, selon eux. Le problème, c'est que cette ligne de défense n'a pas tenu face aux témoignages accablants de ses anciens collaborateurs. Ils ont décrit comment la star des cryptos avait siphonné l'argent de ses clients pour spéculer à son propre compte et mener la grande vie entre jet privé et villa de luxe aux Bahamas. Au total, Bankman-Fried a détourné plus de 8 milliards de dollars. Le juge dit que SBF a franchi la ligne rouge à plusieurs reprises et en toute connaissance de cause et que cette peine de prison, qui est quand même l'une des plus lourdes jamais infligées à un criminel en col blanc aux États-Unis est avant tout destiné à l'empêcher de récidiver.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard à Washington, l'empêcher de récidiver est peut-être un procès pour l'exemple, pour dissuader celles et ceux qui voudraient sortir des sentiers battus sur ce secteur toujours dénué de régulation. On en parlera bien sûr largement avec nos experts ce soir sur BFM Business. Dans l'actualité, il y a donc cette grosse réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Bercy avec Bruno Le Maire, avec Thomas Cazenave, avec des parlementaires de tous bords pour discuter des moyens de trouver de nouvelles économies pour cette année et même pour commencer à brainstormer sur celle de l'an prochain. Vous savez que Thomas Cazenave a annoncé au moins 20 milliards d'euros d'économies dans le budget 2025. Rien n'a filtré en tout cas pour l'instant de cette réunion qui se poursuit à Bercy. Et puis autre dossier qu'on suit très près à Bercy, c'est le dossier Atos. Vous savez qu'il y a 8 jours, on nous disait, je cite, qu'une solution nationale serait construite autour des activités stratégiques du groupe. Eh bien, le patron de Thalès, dont le nom est souvent cité, le redit ce soir sur BFM Business. Il n'est pas intéressé par la cybersécurité d'Atos. Écoutez Patrice Ken.
Nous, on a mis 10 ans pour construire un pôle de cyber de produits. C'est ça notre priorité stratégique. Et donc, je ne porte pas un jugement de valeur sur la qualité de ce que fait Atos. D'ailleurs, je ne le ferai certainement pas à l'antenne. Hein. Mais c'est simplement, ça ne correspond pas à notre stratégie. C'est pour ça que j'ai dit effectivement à plusieurs reprises que ça ne nous intéresse pas. D'un point de vue industriel, ce n'est pas la stratégie que nous avons suivie et que nous comptons poursuivre dans les années à venir.
Mais si l'État vous demande d'y aller, vous irez. Et si Dassault vous demande d'y aller, vous irez.
On ne va pas spéculer et si. Non. Je vous réponds d'un point de vue industriel et stratégique. Ce n'est pas dans notre stratégie que d'aller vers ces domaines de cyber-services.
Voilà, Patrice Ken, le PDG de Thalès, qui est donc l'invité d'Edwige Chevrillon. Interview, vous pourrez écouter en intégralité dans quelques minutes sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, journée encore absolument épouvantable pour le titre Casino, qui était suspendu de cotation hier. Vous savez que les équipes de Daniel Kretinsky prenaient les commandes. Ça a été très très dur aujourd'hui, puisque le titre a perdu ce soir encore 63% de sa valeur. L'action Casino ne vaut plus que 4 centimes à peine ce soir. à la Bourse de Paris. 18h04, c'était attendu donc, cet officiel Xiaomi, numéro 3 mondial du smartphone, débarque dans le véhicule électrique. Il a présenté ce matin à Pékin son premier grand modèle. Et vu le discours qu'a tenu son patron, on sent que Xiaomi n'est pas là pour faire de la figuration. Justine Vassogne nous raconte ça.
Nous voulons offrir aux conducteurs de Tesla une meilleure voiture. Le patron de Xiaomi, Lei Jun, n'y est pas allé par quatre chemins. La SU7, il l'a répété à l'envi durant les deux heures qu'ont duré sa présentation. Bat la Model 3, l'une des voitures phares d'Elon Musk, sur tous les plans, ou presque. La SU7 est plus rapide, a plus d'autonomie, 700 km contre 560. Elle est surtout moins chère, 27 000 euros pour la voiture de base, quand une Model 3 en vaut 31 000. Des tarifs qui ne concernent pour le moment que le marché chinois, sur lequel Xiaomi entend se concentrer. Pour le moment, il faudra attendre 2 ou 3 ans avant de se lancer à l'international, a prévenu Lei Jun. S'attaquer à la Chine en pleine guerre des prix n'est déjà pas une mince affaire avec son premier modèle. Lei Jun a d'ailleurs admis qu'il perdait de l'argent. Au premier rang, lors de sa présentation, étaient installés de nombreux constructeurs chinois. Ils n'ont rien perdu du message de Xiaomi qui vise la cour des grands. Les premières SU7 seront livrées fin avril.
Voilà, Xiaomi qui à son tour se lance dans la bataille de l'électrique. Ça aussi, on en parlera avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. Et puis, on voulait redire un mot de ce qui s'est passé avant-hier à Baltimore avec l'effondrement du pont Francis Scott Key. Les corps de 2 des 6 personnes qui étaient toujours portées disparues ont été repêchés la nuit dernière. On voulait reparler parce que les chiffres commencent à circuler. La fermeture du port qui découle de cet accident pourrait se chiffrer en milliards de dollars. C'est-à-dire la plus grande perte d'assurance maritime jamais enregistrée. Alexandra Paget.
Des milliards de dollars de sinistres, selon le patron de la Lloyd's de Londres, qui assure une partie des 77 entreprises exposées. Cette catastrophe pourrait entraîner la plus grande perte d'assurance maritime jamais enregistrée. Un montant supérieur au record de pertes assuré lors de la catastrophe du paquebot de croisière de luxe Costa Concordia en 2012. Certains analystes avancent le chiffre de 4 milliards de dollars. Les experts de Barclays évoquent 1,2 milliard pour les dommages causés au pont à lui seul, entre 350 et 700 millions pour les indemnités des victimes et familles des victimes, et probablement des centaines de millions de dollars pour les perturbations commerciales causées aux entreprises clientes des infrastructures portuaires pour le fret. Enfin, la fermeture du port pendant un mois seulement pourrait entraîner une perte totale de 28 millions de dollars pour l'État du Maryland, selon l'analyse du cabinet Implant. AXA, en revanche, ne s'attend pas à des pertes significatives liées à l'effondrement du pont à l'échelle du groupe, mais continue à suivre la situation de près.
Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, bonsoir Rodker Sulek depuis Euronext à La Défense pour BFM Business. Alors, j'en ai peut-être pour rien, je ne sais pas. En tout cas, on a terminé quasiment à l'équilibre ce soir sur le CAC 40.
C'est vrai, le CAC 40 stable pour une semaine finalement au ralenti qui s'est finie ce soir sur les marchés, puisqu'il n'y aura pas de séance demain pour cause de vendredi saint. Une semaine calme, mais tout de même, encore aujourd'hui, on a eu un record absolu sur le CAC 40. On est passé au-dessus des 8250 points pour la première fois, 8253 au plus haut. C'était aux alentours de 11h10. Et c'est vrai qu'on est redescendu après, au cours de la journée, notamment parce que Wall Street a ouvert et ne fait rien du tout depuis son ouverture. Il faut dire qu'on a un attentisme sur les marchés parce qu'on attend demain la publication de l'inflation américaine, l'indicateur PCE. Même si les marchés ne seront pas ouverts, il y a quand même ce léger stress en attendant. Aujourd'hui, en tout cas, sur les marchés, on a eu quand même des valeurs qui ont connu quelques gadins. C'est le cas de Casino qui a rouvert, la valeur était suspendue hier. Elle a été recotée depuis ce matin après la restructuration financière du groupe et l'arrivée de nouveaux actionnaires. C'est donc très dilutif pour les actionnaires qui n'ont pas remis au pot. Et la valeur a perdu 63%, elle vaut 4 centimes. Ce soir, d'autres progressions, c'est celle de Vision Group ou encore de Trigano après des résultats satisfaisants qui ont plu au marché avec des progressions de l'ordre de 10%. Et puis, c'était aussi une séance de fin de trimestre aujourd'hui sur les marchés. On peut dire que le CAC 40 a fait un beau trimestre avec une progression de 9% depuis le 1er janvier. C'est pas le seul. Le S&P 500 a dû connaître une progression de plus 10%. Et puis, on a l'once d'or aussi qui connaît un record puisqu'il évolue évolue en ce moment au-dessus de 2 200 $.
Merci beaucoup, Otker Sulek. Bah, allons voir ce que fait Wall Street, effectivement un petit peu à l'arrêt en ce moment. Le Dow Jones, oui, stable, 39 774 pour être précis. Et puis statu quo également du côté du Nasdaq, 16 381 points, tout ça à la mi-séance, bien sûr. 18h09, Patrice Ken, le PDG de Thales, invité d'Edwige Chevrillon dans un instant. Très bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Notre invité ce soir dans la grande interview, enfin une grande interview un peu particulière, nous nous trouvons au cœur de Paris avec Patrice Kane, le président et directeur général de Thales. Bonsoir. Bonsoir ou bonjour, Patrice Kane. Merci de nous recevoir. Ici, c'est un endroit un peu particulier, au fin fond de Clichy, où vous avez vos... je crois que c'est la 4e édition de votre Thales Media Day. Mais ce qui est important, c'est qu'il est entièrement consacré à l'intelligence artificielle parce que vous avez fait des annonces, l'annonce notamment de la création de Cortex, alors avec un AI majuscule, hein, pour montrer qu'on est bien dans l'intelligence artificielle. Mais vous êtes déjà un des leaders... dans la technologie, la défense et aussi dans le civil. L'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, j'espère que déjà vous l'utilisez.
Absolument, voilà, c'est ce qu'on a voulu expliquer à nos interlocuteurs. On a plus de 600 experts aujourd'hui déjà qui travaillent uniquement sur l'intelligence artificielle, hein, parmi nos 35 000 chercheurs. C'est donc un pool très important, probablement le premier pool au niveau européen dans l'IA pour les systèmes critiques, hein, pas l'IA du grand public, l'IA pour les systèmes critiques, et qu'on applique. Alors là, on a beaucoup parlé de défense, mais on pourra parler aussi du civil et des applications pour l'aéronautique ou les satellites, par exemple. Et on a décidé effectivement de se renforcer et de s'organiser avec cette nouvelle structure Cortex pour être encore plus rapide et encore plus agile.
Qu'est-ce que ça change pour vous, en fait, l'intelligence artificielle, pardon ?
En fait, on l'utilise dans deux types, je dirais, d'applications. D'abord pour nos capteurs. Les capteurs, c'est quoi ? C'est un radar, par exemple, ou un sonar, une centrale inertielle. Ils génèrent énormément de données, ils sont devenus tout numériques, hein. Et donc on va les rendre encore plus performants, on va les augmenter d'un facteur 10, 100 par exemple, dans leur performance, avec du traitement à base d'intelligence artificielle, une fois qu'on a mesuré un certain nombre de choses. Et puis on utilise aussi l'IA dans les systèmes d'aide à la décision. Deuxième grande catégorie, un système d'aide à la décision, c'est par exemple un centre de contrôle trafic aérien.
Oui, pour les contrôleurs aériens.
Voilà, qui va aider le contrôleur aérien à assurer la sûreté aérienne. C'est des grands systèmes à logiciel prépondérant, 10, 15 millions de lignes de code. Et donc, par exemple, pour apporter des capacités supplémentaires, par exemple, l'optimisation des trajectoires des avions, effectivement, là, on a besoin de l'IA pour aider les contrôleurs aériens à effectuer cette tâche supplémentaire, si je puis dire, sans bien sûr les surcharger de leur mission principale, qui est la sûreté aérienne.
Alors Cortex, c'est une forme d'accélérateur de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous allez le mettre en musique, voyez, par rapport à ce que vous faites déjà et ce que vous espérez ou vous comptez faire? Parce que l'enjeu pour vous, évidemment, c'est la cybersécurité. On va y venir logiquement. Mais comment est-ce que vous faites pour contrôler toutes les données dont vous vous servez, dont un Rafale va servir, un contrôleur aérien? Comment vous faites pour vérifier que c'est la bonne intelligence artificielle et que ce n'est pas celle qui a été hackée par un autre?
Il y a, je dirais, plusieurs types de challenges qu'il faut relever dans nos métiers que je qualifie de critiques. C'est pour ça qu'on parle d'IA pour les systèmes critiques. Il y en a un qui est évident, qui est la cybersécurité. Il n'y aura pas d'IA de confiance, on appelle ça comme ça aussi, il n'y aura pas d'IA de confiance s'il n'est pas cybersécurisé. Alors nous avons aussi constitué un pôle de cybersécurité très puissant. On a plus de 5800 experts aujourd'hui dans le monde qui travaillent sur la cybersécurité. Donc on va utiliser cette grande force, si je puis dire, au profit de l'intelligence artificielle qu'on déploie dans ces capteurs ou dans ces systèmes d'aide à la décision. Et puis, une autre caractéristique aussi, c'est que ces systèmes, ils sont très souvent embarqués. Prenez un avion de combat, par exemple, c'est effectivement un environnement très contraint, en termes, par exemple, de puissance de calcul. Vous ne pouvez pas mettre un data center sur le dos d'un avion de combat. Donc, comment on fait tourner ces fameux algorithmes d'IA dans des endroits où vous avez peu de puissance de calcul, peu de puissance électrique, et pour autant, vous avez un niveau de performance d'algorithmique qui est très élevé.
Parce qu'à la limite, l'intelligence artificielle, elle peut vous donner, elle s'appuie sur des données et elle peut vous donner des fausses données. Ou si on est dans la guerre Ukraine contre les Russes, par exemple, comme les Russes sont très très bons justement dans le hacking, on peut imaginer qu'ils vous donnent des mauvaises informations, enfin qu'ils arrivent à pénétrer vos systèmes.
Alors absolument, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs une équipe de hackers éthiques, ça s'appelle comme ça, hein, qui oui. s'entraîne, si je puis dire, à attaquer, d'un point de vue cyber bien sûr, des intelligences artificielles. Nous l'avons fait par exemple sur ChatGPT, hein, qui est censé être protégé.
Vous avez hacké ChatGPT ?
Absolument, voilà. Et en fait, on le fait pas par, je dirais, pur plaisir intellectuel, mais en fait, finalement, ça nous apprend ensuite quelles sont les sources de vulnérabilité potentielles dont il faut se prémunir dans nos propres systèmes, pour nos propres applications. Voilà. Mmh. Donc ces hackers éthiques, finalement, nous servent, si je puis dire, d'éclaireurs pour savoir ce qu'il faut faire comme contre-mesure dans nos propres systèmes.
Et vous avez un système complètement fermé, évidemment.
Bon, en tout cas, qui est très sécurisé. Il peut communiquer, bien sûr, avec le monde extérieur, mais avec des niveaux, je dirais, de sécurité informatique extrêmement élevés.
Mais ça veut dire que vous ne pouvez vendre... Enfin, ce n'est pas vous qui vendez, évidemment, les Rafales, etc. Mais il faut que ça soit que dans des mains amies et non pas des mains ennemies, parce qu'à ce moment-là, ils vont récupérer votre intelligence artificielle.
C'est tout à fait vrai, mais c'est vrai d'une façon générale pour la défense, puisque de toute façon, nous n'exportons rien sans une autorisation explicite du gouvernement, qui sont des autorisations à la fois politiques, parce qu'il y a des partenariats stratégiques avec tel ou tel pays, mais aussi, c'est une autorisation qui s'appuie sur une analyse en profondeur des capacités techniques qui sont dans les plateformes, dans les systèmes de défense, qui sont vendus à des clients à l'international, avec effectivement des autorisations qui sont données ou pas, selon les sujets dont on parle.
Vous ne travaillez absolument pas avec Microsoft ou avec d'autres, Mistral. Vous ne travaillez pas du tout avec d'autres sociétés qui développent l'intelligence artificielle ?
On travaille en fait avec tous ces gens-là.
Ah bon ?
Absolument. C'est un écosystème, comme on dit dans le jargon, qui est extrêmement, extrêmement puissant. Quand on peut travailler avec les sociétés qui sont des sociétés du monde civil, entre guillemets, parce qu'effectivement, on travaille par exemple sur des données non classifiées, des données, je dirais, qui n'ont pas de sensibilité particulière. Pourquoi se priver des avancées d'un Microsoft, par exemple, sans leur faire de la publicité ce soir, ou d'autres hyperscalers qui vous mettent à disposition des capacités très performantes. Et puis, quand il faut travailler, par contre, avec, je dirais, une notion de souveraineté, effectivement, Mistral est un très bon candidat. Et pourquoi refaire Mistral chez nous ? Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on en ait ni l'envie, ni les capacités, ni le temps. Évidemment, on s'adresse à ce moment-là à ce type de partenaires, de sociétés, pour ne pas refaire ce qu'ils ont déjà fait de manière très, très performante.
Vous êtes donc, je le disais, un leader de haute technologie. Mais ça veut dire qu'il faut que vous changiez tous les logiciels déjà existants. Parce que l'intelligence artificielle, comme vous venez de le souligner, Patrice Kane, enfin, ça multiplie les capacités de vos logiciels actuels, donc ils ne sont plus adaptés, non ? Donc c'est un investissement colossal.
On va plutôt les compléter que les changer. Effectivement,
les modifier.
On va les modifier, voilà, on va les améliorer. Vous prenez par exemple un radar de surveillance aérienne, une problématique qui aujourd'hui est assez difficile à résoudre, est la détection de drones. C'est des objets qui sont à la fois petits et lents. Les drones, alors plutôt de taille 1 mètre, 1,20 m, des drones militaires. Pouvoir les repérer à 100, 150 km, c'est assez compliqué. On peut les confondre, par exemple, avec des oiseaux. Ça a l'air tout bête, mais oui, voilà.
Bah oui.
Ça renvoie le même écho, si je puis dire, qu'un oiseau. Et là, c'est sans changer le radar lui-même, sa physique, si je puis dire, le fait qu'il émet et reçoit des ondes, vous allez le compléter avec ces fameux algorithmes à base d'intelligence artificielle qui va vous dire, ça, cette trajectoire, ce type de réflexion d'onde, c'est plutôt caractéristique d'un oiseau, donc je l'écarte. Ça, par contre, c'est plutôt caractéristique d'un drone, et donc ça, je l'affiche à l'opérateur.
Mais ça veut dire que votre radar, le fameux radar que les Ukrainiens utilisent, le Grand Master 200, pardon, ça veut dire qu'aujourd'hui, il confond un avion et un oiseau ?
Non, il a déjà un bon niveau de performance, voire même un excellent niveau de performance. Ce qu'on essaye d'améliorer, c'est ce qu'on appelle les faux positifs. Alors, c'est un peu du jargon, je suis désolé, les faux positifs.
Allez-y.
Voilà, c'est un écho, effectivement, qui revient. Finalement, le radar, il est tellement performé qu'il mesure trop de choses. Voilà. Et donc il faut passer le bon niveau de filtrage pour donner uniquement à l'opérateur ce qui est pertinent pour lui. Voilà. Et donc effectivement, il va à la fois détecter un drone et un oiseau, mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est le drone.
Cortex, donc ça se veut un accélérateur de cette intelligence artificielle. En quoi c'est un accélérateur ? Et donc là, il y a 600 experts en fait, que vous regroupez Mais donc, en fait, c'est juste une question d'organisation ou ça va plus loin ?
Alors, c'est vrai que c'est d'abord une question d'organisation, mettre les gens ensemble pour travailler, je dirais, sur des sujets de manière à ne pas dupliquer les sujets de recherche, par exemple. Mmh. C'est très prosaïque, mais optimiser, finalement, ces ressources rares est déjà une façon d'aller plus vite, d'accélérer. C'est l'échange de bonnes pratiques, ce qu'on appelle de la fertilisation croisée aussi. Donc, il y aura une partie vraiment cortex, plutôt laboratoire à Palaiseau, d'ailleurs proche de l'AMIAD, qui a été créé par le ministère des Armées, et aussi à Rennes, où il y a un pôle très important de cyber EDIA du ministère des Armées, où nous sommes aussi déjà implantés. Et puis, on va faire la même chose pour la partie cortex factory, l'usine, si je puis dire, pour développer des cas d'usage pour les systèmes d'aide à la décision.
D'accord. Vous avez les compétences aujourd'hui ?
Absolument.
Ces compétences françaises, des ingénieurs français, ou c'est des gens que vous faites venir un peu du monde entier ?
Deux tiers français, un tiers non français, essentiellement Amérique du Nord, en l'occurrence au Canada, à Montréal, qui est un écosystème extrêmement connu dans le monde de l'intelligence artificielle. Vous avez des instituts de recherche très célèbres, comme l'IVADO, l'Institut de valorisation des données, et puis à Singapour aussi, qui est un pays qui a de très bonnes compétences et qui est aussi très désireux de financer la recherche et qui nous finance dans ces domaines de l'intelligence artificielle.
Alors, Thales est un des leaders dans la cybersécurité. Est-ce que pour vous, c'est l'enjeu majeur, en fait, c'est au cœur de votre business ?
Absolument. C'est ce que je considère être une des technologies habilitantes, comme on dit dans le jargon, qui rend possible. Comme je vous le disais, il n'y aura pas d'IA si elle n'est pas cybersécurisée. Ouais. Donc, c'est vraiment un prérequis, voilà, être capable effectivement d'apporter cette IA de confiance, si on prend le cas de l'intelligence artificielle, grâce à la cybersécurité. Mais c'est aussi un très grand business pour Thales. C'est plus de 2 milliards d'euros. Cette année, je pense, on fera entre 2,3 milliards et 2,5 milliards d'euros dans la cybersécurité. Donc, ce n'est pas uniquement cybersécurité.
Vous avez fait les acquisitions du reste pour renforcer la cybersécurité ?
Absolument. Mmh. On a mis à peu près 10 ans pour patiemment constituer ce pôle que je considère être un des plus puissants aujourd'hui au niveau international dans 3 domaines de la cyber, parce que la cyber, c'est un monde absolument énorme, vaste. La sécurité des données, la sécurité des applications et la sécurité, ce qu'on appelle des accès et des identités. Sur ces 3 segments, Thales est en position de leadership mondial.
Alors moi j'ai une acquisition pour vous, la cybersécurité d'Atos. On en avait parlé déjà, c'était au Salon du Bourget, Patrice Cade. Vous m'avez dit, n'y êtes pas du tout, il en est hors de question, nous avons nos propres systèmes, etc. Aujourd'hui on est dans une situation critique, je ne vous le dis pas, vous connaissez la situation mieux que moi. Le gouvernement, l'État, qui est votre actionnaire, qui veut une solution nationale. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous m'avez dit Niette, c'était pour le tout, que vous repreniez la partie cyber d'Atos, sachant que notamment tout ce qui est supercalculateur, etc., ça pourrait intéresser votre autre grand actionnaire qui s'appelle Dassault Aviation. Est-ce qu'on peut imaginer une solution commune ? Ou vous me dites toujours non ? Ou vous me dites un oui mais ?
Je vais vous le dire beaucoup plus poliment que non.
Non. Soyez clair, c'est le moment de bien préciser les choses, parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce dossier, évidemment, Thales revient sur le devant de la scène.
Ah, on ne prête qu'aux riches, on va dire ça comme ça. Pour être non pas cash, mais clair, il y a plusieurs activités dans ce pôle BDS qui anime effectivement l'actualité maintenant depuis un certain nombre de mois. Sur la partie cyber, c'est essentiellement de la cyber-service. Nous, on a mis 10 ans pour construire un pôle de cyber de produits. C'est ça notre priorité stratégique. Et donc, je ne porte pas un jugement de valeur sur la qualité de ce que fait Atos. D'ailleurs, je ne le ferai certainement pas à l'antenne. Mais c'est simplement, ça ne correspond pas à notre stratégie. C'est pour ça que j'ai dit effectivement à plusieurs reprises que ça ne nous intéresse pas. D'un point de vue industriel, ce n'est pas la stratégie que nous avons suivie et que nous comptons poursuivre dans les années à venir.
Mais si l'État vous demande d'y aller, vous irez. Et si Dassault vous demande d'y aller, vous irez.
On ne va pas spéculer et si.
Non.
Je vous réponds d'un point de vue industriel et stratégique. Ce n'est pas dans notre stratégie que d'aller vers ces domaines de cyber-service.
D'accord, ok, moi, comme ça, la situation, c'est un peu éclaircie.
J'espère.
Voilà, c'est le non de Patrice Cain. Après, on peut lui imposer des choses, nos actionnaires peuvent vous imposer des choses.
Le conseil d'administration est souverain, de toute façon, sur ce genre de décision.
J'aimerais qu'on parle de l'économie de guerre. Il y a eu un discours qui a marqué du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, où on a dit maintenant, en fait, on rentre dans une économie de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il demande aux industriels de la défense, vous, d'accélérer la production, les cadences, etc. Comment ça se traduit pour Thales ?
Je crois qu'effectivement, chaque industriel peut avoir une problématique un peu différente des uns des autres. Donc il y a un discours un peu global, et puis ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour tel ou tel. Pour nous, en fait, on a, je pense, déjà répondu à cette demande de besoins qui sont en train, effectivement, de croître de manière très significative, qui d'ailleurs presque précédait la guerre en Ukraine, en tout cas pour ce qui nous concerne. Nous avons déjà doublé les capacités de production de nos radars, parce qu'on en vend partout dans le monde. Et donc cette capacité qui était de 10 radars par an en France, qui est passée à 20 et qui a peut-être monté à 30, elle est à la disposition de notre grand client français s'il en a besoin. Mais pour le moment, nous l'avons monté effectivement en puissance parce que les besoins internationaux sont très importants. Je prends cet exemple-là parce qu'il est parlant. Bien sûr, ça ne s'applique pas qu'à la gamme des radars.
Et la montée en cadence sur l'ensemble de Thales, c'est quoi? C'est plus 10%, plus 5%, plus 20%, c'est quoi?
Dans la défense, on est sur des taux de croissance chez Thales. L'année dernière, on était à peu près à 7% de croissance par an, ce qui est beaucoup pour une industrie de temps long. Si je regarde les investissements, entre 2020 et 2024, on les aura doublés. On est passé de 320 millions d'euros d'investissement, de CAPEX, comme on dit dans le jargon, à plus de 700 millions d'euros cette année. Vous voyez bien à quel point on est en train d'augmenter nos investissements. On aura recruté, parce que nos investissements, c'est aussi les cerveaux, c'est les talents qu'on recrute. Ces 5-6 dernières années, 50 000 personnes. Ouais. 50 000 personnes. Donc je pense que le groupe Thales a fait le job, si je puis dire, pour accompagner cette croissance des besoins en matière de défense.
Alors, à propos de croissance, ça fait 10 ans que vous êtes à la tête de Thales, quasiment une acquisition tous les ans. La dernière grosse acquisition, c'est Cobham. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, en fait? Qu'est-ce que ça va changer dans cette nouvelle configuration que vous venez de nous décrire?
Cobham est une vraie pépite, une vraie pépite dans le domaine de l'aéronautique, spécialisée dans la connectivité cockpit, vraiment la connectivité qui est la plus sensible, celle qui permet d'échanger des données entre le cerveau de l'avion et puis typiquement le contrôle du trafic aérien au sol.
Du reste, lorsque nous sommes vus au salon du Bourget, on était dans un cockpit justement connecté.
Absolument. Et un des enjeux, pas le seul bien sûr, de la décarbonation de l'aéronautique civile est de pouvoir optimiser les trajectoires des avions en vol, et notamment dans les phases de décollage et d'atterrissage. Et pour ça, ça demande un dialogue au sens numérique du terme, ça ne peut pas se faire à la voix, entre le contrôleur de trafic aérien et le pilote, pour pouvoir effectivement générer, à base d'intelligence artificielle, ces fameuses trajectoires de descente continue, les échanger avec le pilote qui va acquitter la trajectoire et suivre ces trajectoires qui permettent d'économiser environ 10% de consommation carburant. Donc c'est bon pour les finances de la compagnie aérienne et c'est bon pour la planète.
Oui, ça c'est sûr. La prochaine acquisition, elle sera dans quel domaine?
On a trois grands métiers entre la défense, l'aéronautique et spatiale et puis tout ce qui est identité, sécurité numérique. Dans un de ces trois pôles, je ne sais pas vous dire, c'est aussi une question d'opportunité.
Une question, vous avez acquis, je crois que c'était il y a 5 ans, Gemalto. Donc c'était une solution de paiement, ça marche bien. Son concurrent, du reste, drôle, Gemalto, vous l'avez arraché aux mains de Atos, parce qu'il y avait une bataille assez homérique, on s'en souvient. Le concurrent Worldline, lui, il est en grande difficulté. Comment vous expliquez pourquoi Gemalto marche et pas Worldline?
D'abord, Gemalto, ce n'est pas que du paiement.
Non, c'est pas vrai.
Et en tout cas, il y avait une activité qui existe toujours, d'ailleurs, de carte bancaire, comme on dit dans le jargon. Aujourd'hui, cette division, alors qui ne s'appelle plus Gemalto, mais effectivement qui en est largement issue, est devenue la division la plus profitable du groupe. Elle faisait à peu près 8% de rentabilité. On l'a passée à plus de 15% l'année dernière, qui montre bien qu'effectivement, on a su, je dirais, en réinvestissant, en innovant, devenir, je dirais, plus pertinent et plus, du coup, profitable, et enclencher ce cercle vertueux qu'on a fait pour toutes les autres activités de Thales. Maintenant, Worldline est vraiment sur un segment très différent d'une autre, que je ne saurais pas commenter. D'accord. Mais le domaine, effectivement, des cartes bancaires est un domaine qui se porte bien chez Thales et qui est très profitable.
Merci Patrice Kane d'avoir répondu à nos questions. Patrice Kane, le patron de Thales, était notre invité.
BFM Business, l'info éco.
Il est 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, cette décision de justice qui est tombée il y a un peu plus d'une heure aux États-Unis. Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX, star déchu des cryptos, vient d'être condamné à 25 ans de prison, entre autres pour fraude, blanchiment et conspiration. On va reparler avec nos experts, bien sûr, dans un instant. Dans l'actualité, cette grosse réunion cet après-midi à Bercy avec Bruno Le Maire, avec Thomas Cazenave, avec des parlementaires pour discuter des moyens de trouver des économies supplémentaires dans le budget de cette année et même pour commencer à brainstormer sur celle de l'an prochain. Vous savez que Thomas Cazenave en a déjà annoncé pour au moins 20 milliards donc en 2025. Le patron de Thales, vous venez de l'entendre, qu'il a dit ce soir sur BFM Business. Sur le plan industriel, il n'est toujours pas intéressé par les activités cybersécurité d'Atos qui n'ont plus de repreneurs potentiels depuis l'arrêt des discussions avec Airbus il y a de ça quelques semaines. C'était attendu, Xiaomi numéro 3 mondial du smartphone qui débarque dans la voiture électrique. Il a présenté ce matin à Pékin son premier grand modèle, le SU7. Son patron s'est montré très offensif lors de la présentation. Il a clairement installé un duel à distance avec Tesla. Et puis encore journée éprouvante pour Casino à la Bourse de Paris. Le titre était suspendu de cotation hier. Il a perdu 63% de sa valeur ce soir. L'action Casino vaut à peine 4 centimes à la Bourse de Paris. 18h32, on vient avec Audrey Tcherkov et tous nos experts dans un instant sur BFM Business.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h33, on est reparti. Good evening business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov qui nous rejoint bien sûr sur BFM Business. Et puis nos experts, ils sont là, nombreux autour de la table. Mathieu Pêche-Berti est avec nous. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Jean-Baptiste Thouet est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Nathalie Janson. Bonsoir Nathalie, professeur bonsoir. Associé à Neoma Business School. Et puis Franck Morel qui est avec nous. Franck, bonsoir. Avocat associé au cabinet Flichy-Granger. Ancien conseiller social d'Edouard Philippe à Matignon. On parlera bien sûr de l'assurance chômage avec les annonces du Premier ministre hier soir. Un petit mot d'abord de ce que nous a dit le patron de Thales, Patrice Kane, il y a quelques instants avec Edwige Chevrillon. Mathieu, alors évidemment la question est venue sur la table. Elle ne pouvait pas ne pas venir sur la table. Êtes-vous intéressé par les activités cybersécurité d'Atos pour lesquelles il n'y a pas de repreneur? Eh bien, Hypersys Testing, c'est toujours non pour Patrice Kane, finalement.
On n'a pas eu le scoop que tout le monde attendait. Hein.
Non,
écoutez, le PDG de Thales, Patrice Kane, reste effectivement un peu sur sa ligne hein, maintenant depuis pas mal de mois. On le croyait, en tout cas, c'est ce qu'on entendait beaucoup, entre guillemets, dans le milieu des affaires, de qu'il était toujours un peu intéressé, en fait, sur uniquement la partie cybersécurité. Et là, il a quand même été assez clair sur le fait qu'il ne l'était pas. Et d'ailleurs, en donnant un coup de pied à l'âne, presque dénigrant un peu les activités cybersécurité d'Atos, en expliquant que Atos faisait de la cybersécurité dite de service, alors que eux en faisaient vraiment ou en produisaient vraiment.
Bon, mais perçu comme ça, vous dites, c'est pas la même chose sans renier la qualité des.
Oui, voilà, il a dit sans renier la qualité, effectivement. Donc quand il le dit, on se demande en fait si c'est pas le cas. Mais ensuite, soulignant au passage que. C'était de toute façon pas forcément lui qui avait le dernier mot, que si son conseil d'administration le décidait. Bon, écoutez, voilà, il y a pas de surprise, il regarde pas. Après, à la fin des fins, en quelques mois, si la société est vraiment à deux doigts du dépôt de bilan et que Bruno Le Maire prend son téléphone pour appeler le patron du groupe Dassault, qui est le premier actionnaire de Thales, voilà, avec des si, mais je crois que maintenant, il faut passer à autre chose.
Il faut passer à autre chose
du côté Thales Atos. Pardon ?
Non, mais en termes d'image, le mal est fait, parce qu'en effet, donc, non seulement Thales dit aujourd'hui que les activités, enfin, elles ne sont pas si extraordinaires que ça, mais on a aussi Airbus s'est désengagé des discussions en disant que c'était globalement, enfin, c'est ce qu'on a compris, une espèce de coquille vide. La BPI a dit aussi qu'il n'irait pas en tant qu'actionnaire majoritaire.
Personne n'a envie d'y aller.
L'issue,
je sais pas, ça fait 6 mois, tout le monde regarde et personne n'y va.
Oui, mais ce sont forcément les mêmes qui vont revenir. On le sait très bien, Mathieu, on n'a pas filé les clés à Kretinsky, donc on va reparler de Dassault.
Non, mais on a aussi David Layani sur les rangs avec
OnePoint. Alors voilà.
Écoutez, moi, j'ai pas la réponse.
Si,
effectivement. Non.
Dites-nous tout, Mathieu Pêche-Berti.
Effectivement.
C'est Mathieu Pêche-Berti.
Airbus.
C'est une OP.
Mais Airbus, effectivement, a quand même, en dehors des sujets de dissension interne entre les Français et les Allemands, qui sont quand même pas neutres chez Airbus. Depuis le début, de toute façon, ils étaient quand même très prudents, pour pas dire réticents sur ces activités, notamment sur l'autre partie de cette activité BDS, c'est-à-dire les supercalculateurs, qui eux en plus sont une activité qui n'est pas rentable, qui dépend beaucoup des contrats publics. Bon, personne n'a très envie d'y aller hein, sur ce dossier. Patrice Kane, on a mon sens qu'il y a quand même d'autres chats à fouetter, non?
Quand même, bon, bah écoutez, rien de nouveau.
Je suis désolé de vous décevoir, mais.
Non, mais il n'y a pas de mal.
Moi aussi, je voulais voir une lueur dans ses yeux, mais je ne l'ai pas vu.
Dont acte.
Dont acte. Patrick Cahen, ceci dit, a aussi évoqué un sujet important dont nous avons débattu cette semaine. D'ailleurs, la fameuse économie de guerre mentionnée par Sébastien Lecornu, ministre des Armées, il y a quelques jours, et qui demande l'accélération, en gros, aux industriels sur leur production. Jean-Baptiste Thuette.
Il en a remis une grosse couche, Sébastien Lecornu, cette semaine. Hein, ouais. Il parle carrément de réquisition. Pouvoir de police. Hein. Je vais dans l'entreprise, je réquisitionne les stocks, les salariés, les outils de production. Ça y va. C'est une menace sérieuse pour les industriels. Thalès, moi j'ai fait le job. C'est un peu ce que vient de dire Patrice Cahen, clairement. Mes radars Grandmaster 200-400, j'en faisais 10 par an. Attends, j'en fais 20 et je vais bientôt en faire 30. Donc de ce côté-là, il estime avoir fait le job. Le Rafale. Le nombre de pièces de Thalès qui sont à l'intérieur du Rafale, c'est considérable. Les Rafales, on en faisait un par mois l'année dernière et on en fait trois par an. Un par mois l'année dernière et on en fait trois par mois cette année. Donc la hausse des cadences, Thalès y participe. Et ce que dit Patrice Cahen, effectivement, voilà, on a fait le job, surtout qu'on a en fond de sauce, si j'ose dire, on a des besoins de défense qui sont absolument considérables ces dernières années depuis la guerre en Ukraine. Tout est multiplié par deux, multiplié par trois. Il parlait de 7% de taux de croissance dans la défense. C'est quand même assez énorme. Et puis au global, je vous révèle, il y avait ce chiffre qui était tenu secret pour l'instant et qui a été révélé par le ministère des Armées hier. Les commandes en cours pour Thalès. Pour l'État français, il y a plus de 6 milliards d'euros de commandes non livrées pour Thalès. Donc Thalès reste définitivement vraiment le pourvoyeur de l'État français.
Et ces commandes, Jean-Baptiste, elles sont destinées à la France et à l'Ukraine ?
Elles sont multiples. Vraiment, vous avez de tout. Hein. Il y a des systèmes optroniques pour les avions. Vous avez sans doute quelques pièces pour les canons Nexter aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses différentes. À ceci près, Thalès est un petit peu différent des autres entreprises. Juste pour finir, c'est que Thalès, et c'est Patrice Cahen qui le dit, c'est une usine à cerveau avant tout. C'est rempli de cerveau chez Thalès, et c'est ce qui fait la force de Thalès. Avant d'être une grosse machine industrielle, c'est d'abord du jus de crâne, si j'ose dire, à la différence d'un MBDA. Qui ces derniers mois se sont fait tordre le bras justement pour produire des missiles dont on a besoin en Ukraine, parce que c'est ça dont on a besoin en Ukraine. Ouais. Ce sont des missiles anti-char, des missiles à longue portée, etc. Donc c'est surtout les producteurs de missiles qui sont plus à la peine que Thalès qui voilà.
Et 50 000 personnes recrutées.
50 000 personnes recrutées ces dernières années, ce qui est considérable.
Hein. Voilà donc pour l'interview de Patrice Cahen qui était donc au micro d'Edwige Chevrillon. Merci messieurs, Jean-Baptiste Thuette, Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Avant de parler de l'assurance chômage, un petit mot Nathalie, parce que vous venez souvent nous voir dans les émissions consacrées aux crypto. Sur ce qui était la grande annonce de cette fin d'après-midi, Sam Bankman-Fried, donc ancien patron de FTX, star déchu des cryptos, condamné, alors, ce qui s'en sort bien, 25 ans de prison, entre autres, pour fraude, blanchiment et conspiration. Il y a 7 chefs d'inculpation, accusé, je le rappelle, d'avoir détourné la bagatelle de 8 milliards de dollars issus des fonds des clients depuis la création du groupe en 2019. C'est beaucoup. Qu'est-ce que vous dites que c'est un procès, une sanction finalement salutaire peut-être pour un secteur encore dénué de toute législation? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Nathalie?
Je pense que c'est surtout un jugement qui remet au centre la responsabilité, donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'il est reconnu coupable, c'est lui, c'est ses agissements, et donc c'est bien qu'on pénalise et qu'on reconnaisse que quand quelqu'un a fait quelque chose de très grave, eh bien, il encourt une peine grave. Donc, il pouvait encourir plus, puisqu'ils avaient demandé 50 ans. Ils voulaient absolument qu'il n'ait pas l'occasion de refaire ça.
En fait, vous additionniez les chefs d'inculpation, vous pouviez aller jusqu'à 100 ans.
Exactement. Et donc, ils avaient demandé 50, alors que la défense demandait 6,5. Et donc, ceux qui étaient la partie accusateur, on dit jamais de la vie, on ne veut pas qu'ils ressortent en pouvant remonter quelque chose. Ouais. On veut que définitivement il sorte du circuit. Donc effectivement, 50 ans, il a vu compte tenu de l'âge qu'il a,
il pourra plus faire grand chose derrière.
Quoique on est créatif encore très longtemps aujourd'hui. Mais enfin bon, bref, en tout cas, je crois que. Là, on peut pas dire, enfin, autant dans tout ce qui a été des crises avant, je dirais même que c'est plus sévère que par rapport à la crise de 2008. Oui. C'est ça, parfois, qui fait un peu réfléchir. C'est-à-dire, pourquoi lui? Alors bon, tant mieux pour ceux qui ont été, qui se sont retrouvés sans rien à cause, parce qu'ils ont été trop crédules, enfin voilà. Donc, c'est bien qu'effectivement, il y ait des mesures sévères à l'encontre de quelqu'un qui a profité de ses compétences pour, abuser. Et puis, je pense qu'il ne voulait pas finir comme ça, je veux dire, quelqu'un qui est de cette qui avait ce melon, je pense qu'il n'avait aucune envie de finir de la sorte. Il n'a pas mesuré qu'en fait on a tous des limites et il les a dépassées. Et c'est bien qu'il soit condamné à ce titre, qu'effectivement, il y ait des leçons prises. Mais moi, je trouve ça triste qu'effectivement, lui ait 25 ans et que oui. pendant la crise des subprimes, où plein ont eu des responsabilités et que finalement, très peu de sanctions ont été prises. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Donc là, c'est facile parce que, comme vous l'avez dit, c'est un nouveau secteur sur lequel on aime bien taper.
Qui a failli tout emporter voilà. en partie lors de la faillite de FTX fin 2022. Voilà. Faut rappeler l'ampleur de l'onde de choc à l'époque quand même.
Hein. Oui, le Bitcoin avait dévissé. Enfin, je veux dire, il était tombé à 15 000 dollars. On sait qu'aujourd'hui, il est autour de 60 000. Donc, c'est pour dire l'ampleur du choc qu'a créé cette affaire. Mais voilà, moi, mon petit regret, c'est que je me dis, effectivement, ils ont bien mis, on l'a mis face à ses responsabilités. C'est bien que le capitalisme aussi sanctionne quand tout va mal. Et je trouve que ça montre le bon côté du capitalisme. De temps en temps, ça fait du bien. Et par contre, moi, mon regret, c'est que lui prend 25 ans par rapport à tous les milliards qui ont été absorbés par 2008 et où finalement pas tant de
mais ce que ces avocats expliquent c'est que il y a déjà 6,4 milliards de dollars en numéraire qui ont été récupérés et qu'il prévoit de rembourser intégralement
c'est ce qu'il a toujours défendu. C'est-à-dire qu'il a toujours dit en fait c'est pour ça que il demandait beaucoup moins c'est ceux qui le défendaient parce qu'il disait mais il va pouvoir rembourser beaucoup donc pourquoi le condamner autant.
Alors après
pour faire un exemple,
quand même à la fois une vraie perversion du capitalisme et du système parce qu'il a lésé combien d'investisseurs.
Alors, en termes de nombre, je ne sais pas, mais
des
8 milliards.
Les
utilisateurs, les investisseurs.
En ayant utilisé à leur insu, donc les fonds déposés par ses clients pour couvrir des transactions et des placements qui étaient jugés complètement à risque par sa société d'investissement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, lui, il venait de cette industrie relativement. Enfin, c'était quelqu'un qui était trader, donc avait le leverage dans le sang, enfin, donc les montages financiers dans le sang. Donc, en fait, il a apporté cette connaissance, effectivement, dans la crypto et pour le pire en fait plutôt que d'en faire quelque chose. Alors,
les montants ne sont pas les mêmes mais si on compare à Bernard Madoff c'était quand même 150 années d'emprisonnement
Madoff c'était bien pire au niveau de la sanction.
Et le monde des cryptos s'en est remis alors que c'est récent ça fait 18 mois tout au plus peine.
C'est novembre 2022.
Sam Bakhfafri donc condamné ce soir à 25 ans de prison. On parlait de l'assurance chômage évidemment nous pendant ce temps.
Et oui bien sûr donc la réforme de l'assurance chômage y a a-t-il eu vraiment des annonces hier de la part de Gabriel Attal? C'est la question. Hein. Le Premier ministre a renvoyé les grandes décisions à plus tard, même s'il a quand même avancé une piste, la baisse de la durée d'indemnisation de 18 à 12 mois.
Oui, puis il pourrait jouer sur d'autres curseurs, mais il a fait que les énumérer. Écoutez ce que disait ce matin, en tout cas, le patron de la CPME, François Asselin. Pour lui, on est sur des mesurettes, parce qu'il le dit fondamentalement, il n'y a toujours pas de stratégie dans cette histoire. Écoutez.
Ce qu'il manque dans la prise de parole du Premier ministre, c'est quelque part ce qu'on pourrait qualifier d'un plan stratégique. C'est-à-dire que les petites mesures, on va toucher à l'assurance chômage.
C'est une petite mesure.
Toucher à l'assurance chômage,
c'est une petite mesure.
À l'échelle de ce qu'il faut faire pour le pays, oui, c'est une petite mesure, comme la réforme des retraites que nous avons, nous, accompagnée, pour des raisons très objectives, est une réformette, disons les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que dans la situation où nous sommes, bien évidemment, si on veut s'en sortir, nous attendons, nous, à la CPME, un plan d'ordre stratégique où on redéfinit quelle doit être l'action de l'État, quelle doit être l'action publique. Ça touche bien évidemment notre système social, ça touche l'organisation de notre système public, ça touche les territoires. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui en France un secteur marchand qui produit la richesse, ce sont nous, les PME, et vous avez un secteur public qui est devenu pantagruélique, qui fait que nous n'arrivons plus à créer assez de richesse pour tout simplement équilibrer la juste solidarité que nous devons à nos concitoyens. Et là, quand nous avons une pression fiscale telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a plus aucun levier sur les impôts, reste le travail.
Ce qui est dénoncé ici quand même, c'est que le gouvernement veut faire des économies sur le dos des pauvres en insinuant que les personnes qui sont au chômage le sont par choix. Est-ce que c'est votre analyse aussi ?
Évidemment que les personnes au chômage ne le sont pas par choix, mais évidemment également que l'utilisation des règles d'indemnisation du chômage constitue des leviers de politique publique. Ça, personne n'en disconviendra, et c'est des leviers qui ont été utilisés dans une période encore récente. Moi, je serais plus interrogatif sur la méthode, en réalité, et sur la réalité du gain in fine. Parce que quand on s'interroge sur la méthode, on s'interroge sur le fait qu'au bout du bout, on arrive à atteindre l'objectif que l'on s'est fixé précisément.
Le plein emploi.
Alors, le plein emploi, et puis le fait de répondre à la situation extrêmement dramatique que nous connaissons, avec une dette publique élevée, un déficit qui est à 5,5% du PIB, et la nécessité d'envoyer très vite des signaux pour prendre des mesures afin de faire face à cette situation.
Et donc remettre l'ensemble des Français au travail.
Et voilà, effectivement, contribuer au fait d'élever le taux d'emploi et mettre les Français au travail. La question, en fait, elle est la suivante sur l'assurance chômage. Si, effectivement, il peut y avoir débat sur les mesures et sur la nature des mesures, et les mesures, elles ont évolué, encore une fois, dans une période récente. En comparaison européenne, par exemple, sur la durée d'indemnisation, on se situe plutôt dans la moyenne. En revanche, c'est sur les critères...
On est quand même en haut du panier, hein.
Oui, on est plutôt, mais on est en durée, les 18 mois, il y a beaucoup de pays qui sont à 24. En réalité,
les Allemands sont à 12-14.
Voilà, en réalité, c'est l'entrée, l'éligibilité, la durée nécessaire pour ouvrir droit à indemnisation, où là, effectivement, on est beaucoup plus favorable que plusieurs de nos voisins européens, avec 6 mois sur 24 mois, hein, qui est la durée telle qu'elle est applicable aujourd'hui, qui serait ramenée à 5 mois dans le dernier accord des partenaires sociaux qui a été signé en novembre 2023.
Mais ce n'est pas la première piste qu'a évoquée Gabriel.
C'est pas la première piste, effectivement. Il a parlé de la durée et il a parlé de l'éligibilité, également. Alors, la vraie question qui se pose, c'est que on a l'encre qui est à peine sèche aujourd'hui d'un accord qui a été signé entre les partenaires sociaux au mois de novembre 2023. Ils doivent se revoir, je crois, le 10 avril pour finaliser ce qu'il manquait dans cet accord, à savoir les fameux 440 millions sur la filière senior, c'est-à-dire sur le décalage de l'âge d'entrée dans ce qu'on appelle la filière senior, c'est-à-dire la durée d'indemnisation plus longue pour les seniors. Et alors même que ce premier accord dont il a été annoncé qu'il serait agréé n'est pas encore agréé, on pense déjà à l'étape d'après. Alors, why not si on sait l'objectiver? Mais sait-on l'objectiver? Vous avez en fait un texte de loi qui a été voté en 2018 et qui dit la chose suivante, de manière très claire. Le gouvernement, toutes les fois qu'on va engager une renégociation des règles d'indemnisation, donc tous les deux ans, en principe, ça a été la périodicité, envoie un document de cadrage, il y a une négociation, succès, échec de la négociation, décret. Si le gouvernement veut saisir les partenaires sociaux et changer les règles en cours de route, il ne peut le faire que s'il est capable d'objectiver une dégradation de la situation financière de l'assurance chômage,
pas de l'État, la situation des comptes de l'État.
Et de la trajectoire pluriannuelle des finances publiques. Alors, il y a à minima une interrogation sur le fait, dans le deuxième item, la trajectoire pluriannuelle des finances publiques, qu'il ne soit pas nécessaire que ce constat soit étroitement relié au constat sur l'évolution des comptes de l'assurance chômage. Sera-t-on capable de faire ce constat dans la saisie des partenaires sociaux? Je pose la question.
Donc ça veut dire que pour vous, pardon de le dire comme ça de manière un petit peu brute, l'étape c'est peut-être pas bordée suffisamment sur ce coup-là, le gouvernement, c'est ça que vous
êtes en train de dire. La difficulté, si vous voulez, c'est que si jamais on n'est pas bordé à 100%, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des recours. Parce que j'ai l'impression, quand on entend François Asselin il y a quelques secondes, et qu'on entend encore plus les organisations syndicales, que ça ne sera pas un lit de rose et qu'il y aura forcément des recours. Et quand on regarde dans le rétroviseur l'histoire des réformes de l'assurance chômage, même dans des périodes où on était très 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 bordé, eh bien cette histoire, quand on est dans un rapport conflictuel avec les partenaires sociaux, elle peut se solder par des annulations, par des suspensions. En juin 21, le Conseil d'État a suspendu l'entrée en vigueur de la précédente réforme de l'assurance chômage sur la base d'une argumentation qui était contestable, mais dans un contexte qui était déjà conflictuel et qui était, de mon point de vue, plus bordé que ça n'est le cas aujourd'hui. Mais, donc, on peut quand même s'interroger.
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre risque? Parce que vous avez parlé, en effet, de la prochaine réunion qui va arriver vite, maintenant, début avril, avec l'ensemble des partenaires sociaux, donc qui doivent travailler sur un cahier des charges qui est défini par le gouvernement. Et certains syndicats dénoncent d'ores et déjà un cahier des charges qui est inacceptable, avec un but sous-jacent derrière, de faire échouer le processus de négociation pour récupérer, pour remettre la main sur l'assurance chômage. Est-ce que c'est un risque aussi?
Mais ça contribue à nourrir le risque, évidemment, puisque vous avez une relation avec les partenaires sociaux qui n'est pas simple, entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Vous aviez une occasion, à travers la négociation en cours sur les seniors, sur le pacte de la vie au travail, d'avoir la possibilité justement de matérialiser un nouveau pacte avec les partenaires sociaux, avec la transposition dans la future loi d'un éventuel accord qui serait trouvé. Et patatras, on a l'impression que tout ça est remis en cause avant même d'avoir pu aller à son terme. Le jeu en vaut-il la chandelle ? L'avenir le dira. L'avenir le dira. Mais poser la question, c'est déjà s'interroger sur le fait que ce contexte ne soit pas une circonstance qui plombe de manière assez importante la capacité à agir de manière efficace dans ce domaine.
Sauf si le plan secret du gouvernement, c'est de porter les stockades, porter le coup de grâce et donc mettre un terme définitivement au paritarisme. Sauf si c'est ça l'idée cachée.
Il faut le faire voter au Parlement.
Ce que dénoncent déjà les partenaires sociaux, très clairement, Franck.
Mais il faut le faire voter au Parlement en majorité relative, ce que vous dites là.
Oui.
Voilà.
Pas gagné.
C'est pas gagné.
Non, c'est sûr. Et puis, une des pistes en tout cas évoquées hier, et pourtant on en a beaucoup parlé cette semaine en disant que c'était une ligne rouge, c'est le niveau d'indemnisation. Gabriel Attal dit que cette hypothèse est moins à sa préférence, je le cite, mais ce n'est plus exclu.
Oui, c'est un élément qu'il a mis sur la table, qui n'est pas exclu, mais qui a l'air d'être mis sur la table plutôt comme repoussoir pour valoriser les deux éléments qui ont été cités auparavant.
Oui, parce que ce qu'il a expliqué, ça serait un niveau d'indemnisation revu à la baisse en modifiant la méthode de calcul.
Absolument. Donc ça, c'est, je pense, la méthode de calcul, elle a déjà été modifiée. C'est ce qu'on appelle le SJR, le salaire journalier de référence. Hein. La finalité de cette réforme était de faire en sorte, c'était la toute première dans le premier quinquennat Macron, c'était de faire en sorte que, précisément, on ne gagne pas plus en étant indemnisé par l'assurance chômage qu'on ne gagne lorsqu'on enchaînait des contrats courts, notamment, hein, des périodes de contrats courts. Donc ça a été modifié. Ça a été un peu assoupli ensuite, par la suite, précisément suite à un certain nombre d'échanges avec le Conseil d'État, notamment, et avec les partenaires sociaux. Et donc, je suis pas certain que ça soit cet élément-là qui soit l'élément central. On voit bien que l'élément central, c'est la durée, suite à ce qu'a indiqué Bruno Le Maire. La durée globale et la durée peut-être pour les seniors, parce qu'il est vrai qu'il y a une vraie question sur ce qu'on appelle les pré-retraites unédiques.
Oui.
C'est-à-dire un mécanisme d'indemnisation des seniors qui crée des appels d'air pour que les entreprises et les seniors se séparent et bénéficient pendant une durée de plusieurs années, hein, qui pouvait aller jusqu'à 8 ans, hein, il y a encore peu de temps, hein, et qui peut aller facilement au-delà de 5 ans aujourd'hui par le jeu des différents mécanismes. C'est cette question, sans doute. Alors, les partenaires sociaux, le 10 avril, vont sans doute seulement décaler l'âge d'entrée dans la filière senior, passer de 55 à 57 ans, ce qui est déjà bien. Mais c'est vrai que cette question, en revanche, elle va demeurer.
Nathalie, on a 2 minutes, puis on en reparlera bien sûr jusqu'à 20h avec nos experts sur BFM Business. Avec vous, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous dites réformette, comme le disait François Asselin, finalement, dans cette histoire, à travers ce qui a été annoncé ? Ce qu'on sait d'ores et déjà de ce qui nous a été annoncé hier soir, finalement.
Disons que c'est peut-être pas le plus urgent compte tenu de l'état du marché du travail aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas l'impression que ce sera une réforme qui sera décisive pour débloquer et descendre encore plus bas dans le niveau du chômage. On parle davantage, on aurait mis davantage en avant les problèmes de matching d'offres et de demandes. Donc on aurait plutôt eu envie d'avoir quelque chose sur les formations plutôt que sur l'indemnisation, je pense, en tout cas, de ce qui est écrit par les experts du marché du travail.
France Travail est censé apporter des réponses.
Oui, mais ça tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que celle-là, pourquoi ça ? En plus, je pense que c'était...
Il y a des arguments quand même que le marché du travail, quoi qu'on en dise, malgré les ralentissements économiques, le marché du travail reste tendu en France.
Bien sûr. Non, mais justement, parce qu'il y a une inadéquation.
Oui.
Bien sûr, il y a effectivement du boulot du côté de France Travail, qui est un élément de la réponse. Et puis, il y a un autre élément de la réponse dans, justement, la négociation en cours, le pacte de la vie au travail. Sur la table est posé, par exemple, un regroupement, une simplification des processus de reconversion professionnelle, d'organisation de la formation dans le cadre de systèmes de reconversion professionnelle. Quelque chose d'assez intéressant qui peut contribuer aussi à apporter des réponses.
Oui, parce que la fluidité du marché du travail, on n'a pas un marché du travail très fluide, donc effectivement, tout ce qui permet des ponts plus faciles sans doute contribuerait à son amélioration.
Est-ce qu'on peut entendre la frustration des partenaires sociaux qui ont l'impression, je résume la phrase du patron de l'UDP qui dit plus que jamais de négocier avec un revolver sur la tempe. Voilà l'expression un petit peu qui circule toujours et encore.
On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est compliqué, effectivement, parce qu'il y a une négociation qui est en cours, qui n'est pas achevée, Et en principe, la tradition, depuis de nombreuses années, c'est tant qu'une négociation n'est pas achevée, on laisse la négociation se dérouler jusqu'au bout.
On peut être tenté de conclure un accord un peu boiteux pour sauver la face, pour donner le change dans ce genre de situation.
Ça, j'en suis pas certain. Ça, j'en suis pas certain, parce que, vous savez, on entend beaucoup de choses dans les processus de négociation, que décidément, les portes ont claqué, que c'est compliqué. C'est seulement à la fin... Qu'on voit quelle est, je ne vais pas employer l'expression, je vous vois sourire, de la foire, voilà.
On a compris, oui.
Mais en tout cas, c'est seulement à la fin qu'on voit quel est le résultat qui est obtenu.
Enfin, c'est aussi un message envoyé aux agences de notation dont le couperet va tomber fin avril et montrer que justement, en fait, on cherche. Voilà, exactement. On s'affaire. Non, mais ceci dit, parce que pour résorber ce trou de 254 milliards, c'est vrai que tout faire pour remettre l'ensemble des Français au travail, c'est aussi assurer plus de recettes fiscales.
C'est certain, mais c'est peut-être pas comme ça qu'on y arrivera le mieux.
Voilà, c'est ça. La question, est-ce la bonne méthode ?
Voilà pour cette réforme de l'assurance chômage dont les grandes lignes seront dévoilées au fur et à mesure que les mois passeront, évidemment. Merci beaucoup, Franck
Morel.
En tout cas, merci infiniment d'être passé nous voir ce soir, avocat associé au cabinet Flichy Granger, puis ancien conseiller social d'Edouard Philippe à Matignon entre 2017 et 2020. Merci beaucoup. Nathalie, on se retrouve dans un instant, bien sûr, parce que nos experts reviennent dans un instant et parce qu'on revient dans deux minutes.
Ah oui, avec le meilleur de l'actu économique. À tout de suite.